redécouvrir Hélène Pedneau. Série de balados sur les écrits et la vie de Hélène Pedneau, regroupant des lectures d'œuvres et des extraits d'entretiens avec des personnes qui l'ont côtoyée. Deuxième série, La douleur des volcans. Troisième épisode. Une princesse d'Espagne. Elle ne sait pas fleurir, alors elle jalouse les plantes. Elle ne sait pas parler, alors elle s'invente un vocabulaire de toutes pièces pour se venger. Ce qu'elle sait faire le mieux, je crois, c'est de traquer la chaleur pour m'en donner ensuite, tout en ayant l'air de m'en prendre. Elle est fière. Il ne faut jamais lui souligner qu'elle est indispensable. C'est une petite personne aux yeux bridés vert émeraude qui collectionne les odeurs et les porte comme des bijoux. Qu'elle sente le soleil, le sommeil, mon parfum ou l'odeur de l'hiver sous zéro, elle se pavane en semant derrière elle quelques perles de senteur que je ramasse humblement en la prenant dans mes bras. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle sait ou ce qu'elle sent, mais je crois qu'elle n'est bien en ce monde que dans mes bras. Elle sait que j'ai viscéralement besoin de me sentir utile, moi, pauvre humaine indigente, qui se bat contre sa vie, pourtant sa seule vraie complice. Ma princesse me trouve étrange parce qu'elle ne se bat contre rien. Elle se contente de vivre et de faire alliance avec son plaisir, toujours exactement au centre de chaque seconde qui passe pour en éviter la brûlure. J'essaie désespérément de faire comme elle. Praline, une chatte d'Espagne venue expressément sur Terre pour me guérir. Ce matin-là. Tu t'es prise dans mes bras de la même façon qu'un petit singe enchevêtré dans tes lianes. Elles avaient dû pousser durant la nuit. Je ne les avais jamais vues si nombreuses, si évidentes. Tu te consumes dans l'eau, avec l'eau, et tu rétrécis, tu rétrécis. Tu t'agrippes, tu casses en deux, en cent, en mille fragments que j'essaie de rattraper, de garder ensemble. Un petit tas de sanglots décinglés, c'est ce que tu es ce matin-là. Je n'y arrive pas. Ça déborde et ça me prend en douceur, c'est violent et c'est doux. S'il y avait eu du ressac quelque part dans cette douceur, je l'aurais senti. Tu me prends, je te prends et ça me déborde. C'est humide sous tes cheveux quand j'y glisse mes doigts écartés pour saisir ce qui doit être ta tête. Je ne sais pas au juste ce que je tiens. Mes doigts sont partout mais ils n'y arrivent pas. Ils ne sont pas assez nombreux pour te tenir ensemble. Et cette tête qui penche, qui ballotte désaxée, qui bascule à travers moi. J'essaie de saisir tes yeux au travers la cohue, de fixer ton visage qui renverse, de repousser ta chevelure épaisse qui m'encombre. Je n'entends pas ce que tu dis. Je n'entends pas la phrase que tu répètes à mon épaule. Ta tête est lourde, lourde. Ta tête est molle. J'ai peur tout à coup qu'elle se détache de toi dans ton vertige. J'ai peur qu'elle roule. Elle roule déjà sous mes doigts. Je la tiens pourtant, elle m'échappe. Mes doigts dans tes cheveux encore, j'essaie d'endiguer. Tu pleures tant. Je dois laisser des traces sur ton visage en essayant d'effacer le torrent. Je remarque au passage que ta peau est douce. Je l'oublie aussitôt. Je remarque au passage que la peau de ton visage est malléable. Ça doit être pour ça que tu as tous les âges en même temps. Mais je n'ai pas le temps de m'y attarder. Il ne faut pas que je nous laisse couler à pic. Il ne faut pas que je me laisse emporter par cette vague qui te soulève. Je suis là, je tiens bon. Je ne veux pas que tu t'en ailles. C'est ça que tu me cries, j'entends. Ton corps est chaud, il est mou, ton corps est humide. Cette humidité a quelque chose à voir avec la peur. Tu as dû avoir très peur. J'ai retrouvé un jour ma petite chatte écrasée au milieu de la rue, le poil hérissé, trempé, morte. Il y a une sorte d'humidité reliée à la peur. J'ai chaud. J'ai peur. Tu es chaude et humide. J'aime ça et je suis affolée. Je suis deux. Désir de caresser, désir de bercer. Mes sens ouverts, tu traverses. Je ne sais que répéter ton prénom. Je ne sais rien faire. Je suis bancale et je trébuche. C'est la première fois que quelqu'un me crie qu'elle a peur de me perdre. Je ne sais pas quoi faire. Je ne me reconnais pas. Ce matin-là, les fenêtres n'avaient pas encore soulevé leurs paupières. Nous étions dessous. portrait avec pluriel. Elle pense qu'elle aurait dû être quelqu'une d'autre. Sa méprise vient certainement du fait qu'elle est plusieurs. J'ai détecté sa foule par hasard, un jour que je ne cherchais rien de particulier et que je l'aimais un petit peu plus que d'habitude. Il y a des jours plus luxuriants comme ça. Mais je ne connais pas chacune de ces autres personnellement. En tout cas, pas au point de pouvoir les reconnaître si l'envie me prenait de les saluer en les croisant par hasard dans la rue. De face, pourtant, elle a bien l'air toute seule, à s'y méprendre. Quand elle me parle, même au téléphone, je prends mon air le plus dégagé et je cherche ces autres, mine de rien. Elles me voient faire mine. Elles ont de bons yeux. Mais elles ne savent pas toujours ce que signifient mes mines. Je leur laisse le doute. Elles ne posent pas de questions. Elles me disent à l'unisson que je suis un animal étrange et laissent mes masques tranquilles pour que je me repose. Elles sont comme ça, ensemble. Toujours l'air de savoir quelque chose qu'on ne sait pas à notre sujet. Mais elles nous laissent entièrement la paix avec ce qu'on ne sait pas. Ce qui, en réalité, n'est pas vraiment de la belle paix docile, bien étendue et relaxe à l'ombre, au bord d'un lac non pollué. Pas vraiment. Elles en mandatent une seule pour négocier avec l'univers visible. Les cheveux de celle-là sont l'indice le plus évident qu'elles doivent être plusieurs. Je me dis qu'on ne porte pas autant de cheveux blonds frisés sur sa tête si on n'a pas quelque chose à cacher. Par exemple, la présence d'autres chevelures en dessous. Je suis presque certaine d'avoir vu, des jours différents, des tresses, des cheveux très courts, l'ombre d'un chignon. Je dis presque. Avec elle, rien n'est jamais sûr, c'est certain. Il y a toujours tellement de possibilités. Elle les étale toutes devant nous pour qu'on choisisse une carte, à condition que ce soit la bonne et la nôtre. Mais comment savoir ce qui est vraiment à nous ? Elle sourit et rebrasse les cartes en silence, une espèce rare de muette qui casse les oreilles. À force, on s'épuise de tirer des cartes et on les jette par terre d'un revers de la main. Elles sourient et les ramassent dans le désordre. Elles disent, encore unanimes, que le désordre est une grande chose dont il faut prendre soin. On y comprend goutte et on continue de traquer les poussières sous les meubles en ignorant la fuite d'eau qui est en train de pourrir les fondations. Elles ont toutes des âges différents, mais aucune d'elles ne sait compter. J'ai même vu une vieillarde qui a connu toutes les guerres depuis Azincourt se pointer dans son œil entre deux clignements de paupières. Puis l'instant d'après, une enfant trop maigre sautait à la corde avec sa jupe à motif écossais. Et une autre encore, autour de 3 ans, pas plus, qui n'avait pas assez de ses 2 bras pour tenir la douceur donnée dans un ours en peluche. Je me demande souvent comment elles sont entre elles, sans témoin. Elles ont l'air de prendre soin les unes des autres. Celle qu'elles envoient seule sur la ligne de front ne fait jamais négliger. Elle est harmonieuse et si parfaite qu'on se sent toujours un bas qui file, même quand on ne porte jamais de bas nylon. Elle porte de beaux vêtements en couleur, elle sent bon, elle se coiffe. Elle ondule comme un arbre jeune, c'est ainsi qu'on la reconnaît de loin sur un trottoir. Et surtout, elle ne dit jamais à personne que c'est insoluble d'être plusieurs. Elle peut parler de tout sauf de ça. Ses autres lui en voudraient si elle étalait leur vie commune. C'est leur théâtre privé. N'allez pas croire qu'elle ne sait pas souffrir. Elle ne fait que ça. Mais elle a un sens de la dignité un peu surannée qui me fait penser qu'il y a aussi une ancienne princesse dans sa foule. Une femme en exil flotte à la surface de ses larmes qui lui font une mer intérieure. Chaque soir, elle s'y retire ensemble, à marée basse sur la grève. Elle regarde le soleil se coucher dans ses couleurs et choisit avec lui les pastels pour l'aube du lendemain. Voilà. Des petites filles dans la mer, c'est elle. Ce soir-là. Ce n'était pas un soir où la vie prenait le dessus. C'était un soir où personne ne savait comment juguler le sommeil pour en faire du repos. Un soir de veille, un soir de mots qui n'ont plus de raison de se dissimuler. Ils sortaient en toute lenteur et tombaient comme des mouches. C'était un soir de basse pression. La fièvre était reine en ton sang et le brouillard t'avait conquise. Tu étais lente et sans défense. Tu es lente. L'air se creuse comme une main qui cueille. Tu es lente et l'air se calme et se creuse. La lenteur t'appartient de tout temps. Tu te loves en rond dans un coin du sofa usé. Tes yeux deviennent plus flous, moins noirs. Et tes gestes ne sont plus pareils aux autres gestes d'avant la lenteur. Tu portes encore dans tes os la fatigue infinie de la vie quand elle est effrénée, et cette fatigue te sculpte une nouvelle aura. Tu Tu es arrivé quelque part et tu ne l'as dit à personne. Ou peut-être que tu ne reprends pas le dessus sur quelque chose de si secret que la lenteur vient flotter à la surface, quelque chose qui te précède et te poursuit, ou que tu poursuis, haletante, hagarde parfois, hébétée, sans mots, hirsute, belle. Dans ta quête, tu deviens distraite, tu oublies de bouger. Tes vêtements ne vibrent pas comme d'habitude, ils sont noirs et ta peau est lisse et blanche, fine. Ta voix est lasse. Tes mots sont comptés. Ils sortent assurés, précis, justes. Tu ne peux pas les accompagner plus loin dans ta fatigue, comme quelqu'un qui souffre trop et doit calculer tous ses gestes pour qu'ils se rendent là où ils doivent se rendre, chacun étant essentiel. Tu es lente et ça me chavire. Je sais le désarroi qui ralentit toutes les marches. Je sais aussi la première peine d'où viennent toutes les autres. Et je te regarde avec.
Très souvent, quand on est artiste, on sert de nos habiletés pour refouler notre souffrance. Pas pour la révéler, pas pour la comprendre, pas pour rien. Parce que ça fait trop peur, la souffrance. Mais quand tu travailles avec le féminin, tu es juste entre femmes. Quand tu veux travailler le féminin, quand tu fais du théâtre là-dessus, tu veux explorer ça, puis tu es entre femmes seulement, à un moment donné, c'est intolérable. La folie, la souffrance, tu sais, on l'a-tu assez dit, vous êtes toutes hystériques, vous êtes toutes folles. C'est absolument... J'ai vu des hommes bien plus hystériques que des femmes, là, mais la souffrance, c'est vrai. Parce que c'est les femmes qui portent la souffrance de l'humanité.
Portrait avec filigrane. Elle a ses cocons. C'est peu dire. Elle est un long fil incassable qui prouve le verre à soie quand on doute de son existence et de son art. Elle tisse. Elle tisse son fil à celui d'autres qui ont aussi des métiers à tisser. Elle tisse et fait pousser des fleurs au lieu de marcher dessus. Elle croit, mordicus, aux graines. Elle a ses choix. C'est peu dire. Elle ne marche sur rien d'autre que sur la terre nue. Même les routes, elle les emprunte au lieu de les prendre. Si par erreur ou par malheur une personne est couchée en travers, elle marche sur la pointe des pieds en faisant un détour pour ne pas l'éveiller, ou elle va se coucher avec lui ou elle. En cas d'urgence, elle peut même se changer instantanément en sirène. Elle fait ça si vite que personne n'a jamais pu voir de ses yeux vus la transformation. Si elle avait été Florence Nightingale, elle aurait été une ambulance. Une sirène, c'est quand même plus joli. Elle a ses façons, c'est peu dire. Parfois, elle vole dans ses plumes d'un arbre à l'autre en imitant le cri du Kodak en chaleur. Tous les oiseaux et tous les arbres, y compris généalogiques, s'y laissent prendre en douce, d'autant plus qu'elle les appelle par leur petit nom et qu'elle a bien connu leurs parents. Ils sont en confiance. Il y en a même un qui a fait son nid sur son épaule, bouleversant d'un coup toutes les règles de l'ornithologie. Elle déroule ainsi des kilomètres de pellicule en guirlande où les oiseaux viennent se percher en attendant de nicher dans leurs propres images. Elle pense que la pellicule est de l'écorce de bouleau blanc qui n'existe sur Terre que pour y graver des cœurs avec des noms dedans, exactement comme si elle était née au Québec. Mais elle n'oublie jamais que le castor existe. Chez elle, une pensée ne vient jamais seule. Elle a ses yeux. C'est peu dire. Elle y dissimule des télescopes géants qui lisent jusque dans les trous noirs, même quand c'est écrit petit, comme sur les contrats d'assurance. Elle ramasse des images. Quand il y en a trop, elles lui tombent directement des yeux et s'en vont habiter dans ses papiers pour avoir chaud. Elle est terriblement colleuse. Elle a ses convictions. C'est peu dire. Elle en veut à la terre entière quand la terre entière ne parle que le masculin. Elle parle au présent. C'est peu dire. À la place de Christophe Colomb, qui a fait croire au roi d'Espagne et au monde connu qu'il avait découvert une Amérique déjà découverte depuis belle lurette par des gens bien plus respectueux, elle aurait découvert les femmes, le seul continent manquant, sans même chercher la route des Indes. Ce serait fait aujourd'hui. Les atlas seraient à jour dans toutes les bibliothèques. Les femmes ne seraient pas obligées de s'auto-découvrir tous les jours et de descendre dans la rue aux 5 minutes pour écrire leur histoire en essayant de parler plus fort que les descendus de Christophe Colomb qui continuent de prétendre qu'ils ont découvert l'Amérique, comme si la mèche n'était pas éventée. Entre elles, les femmes se disent qu'ils ont plutôt trouvé la route des dindes, ce qui les fait beaucoup rire depuis qu'elles ont aboli la basse-cour sans leur dire. Elle a ses tragédies. C'est peu dire. Si vous essayez par exemple de la mettre en cage, elle est capable de vous refaire dans l'instant l'histoire de la cage depuis l'invention de la cage par les humains. Ce qui crée immédiatement une fenêtre. Évidemment, les propriétaires de cages s'arrachent les cheveux étant donné que la fenêtre n'a jamais fait partie de leur projet. Il vaut mieux ne pas essayer de la mettre dans une cage. C'est très compliqué. Elle ne veut manger que des pousses de bambou, ce qui est beaucoup plus rare que l'écorce de platane ou la mousse rose de tamari qui sert à fabriquer la barbe à papa. Vous passerez votre temps à courir la ville pour trouver des pousses de bambou fraîches si votre objectif n'est pas qu'elle meure. Elle est née en Chine, avec les pandas. Elle s'en souvient très bien. Mais comme elle est née en même temps dans plusieurs endroits à la fois, aussi bien en Russie, en Allemagne qu'en France, elle mélange les traditions. C'est comme ça qu'elle est heureuse. Elle a ses filigranes. C'est peu dire. Ils sont plus nombreux que ses images. Il n'y a rien à faire. Elle refusera toujours qu'on la regarde à travers la lumière, même celle du jour. C'est sa seule jalousie. Ce sera toujours peu dire, quoi qu'on dise. Viens, on va se faciliter la vie. Il n'y aurait jamais eu rien de plus beau au monde que son sourire s'il n'y avait déjà eu auparavant la bouche qui savait faire le sourire. J'observe quelqu'un de très près. Je me sers de mon œil comme d'une loupe et je vois des choses étonnantes. Les pores de la peau sont des trous véritables par lesquels on peut entrer une fois qu'on a laissé la sueur sortir. Mais nous ne sommes pas des ayants droit comme la sueur. Nous ne sommes là que pour usurper, toujours. On entre clandestinement par où la sueur sort, et ça ne goûte jamais la même chose parce que le salé appartient à la sueur. Et la sueur ne vient sur nous que lorsque quelque chose se passe avec la peur, la terreur, le désir ou le grand débat du cœur et des jambes. Quand on fait une autopsie du désir, ça a toujours l'air d'une autopsie. Le désir s'en absente et revient dans une heure quand on s'est lassé d'essayer d'expliquer. Je ne peux pas souhaiter être plus près. Il y a pourtant une table et une nappe en papier entre nous et tout cet encombrement dessus. J'atteins son milieu et rien ne bouge. Le désir surprend toujours quand on est en train de faire autre chose, de manger ou de rire surtout, ou de ne pas y penser, même quand on se fait croire qu'on ne le connaît pas et qu'on regarde ailleurs. Les garçons s'agitent entre les tables. Le bruit monte et retombe sur nous, pluie, acide. Ils se cognent partout dans son billard aveugle. Ils grognent et s'amplifient, suintent au mur, giclent, rebondissent. Il ne peut rien contre la liquéfaction qui nous concerne en exclusivité. Et pourquoi je ne dirais pas que ta sorte de peau me fait défaillir? Pourquoi pas? Il faut bien commencer quelque part à désirer. C'est arbitraire puisque tes yeux et tes fossettes avaient déjà commencé à me commencer dans le désir. Et probablement ce que tu disais, et aussi ce que tu ne disais pas, parce que ça n'était pas vraiment nécessaire. La sueur commence à couler sous mes seins, pas forcément parce qu'il fait chaud. Elle coule et je parle malgré tout. Elle chatouille lentement. Elle coule comme tout ce qui coule vers le bas pour rejoindre une source plus importante. Ma sueur est un affluent. Tout coule comme quand ça fond, parce que ça fond. Puis ce sont mes tempes qui battent comme des tambours en peau d'Afrique, comme l'effet du vin. Puis, c'est tout le reste. Je ne sais plus dans quel ordre ou dans quelle simultanéité. Ma main qui se surprend à vouloir prendre celle qui émiette le pain ou triture le carton d'allumette. Ou celle qui passe son doigt doucement sur le rebord de l'assiette vide. Ou qui ne fait rien. Simplement d'être à prendre. J'entends plus, j'entends tout. Un magnétophone se déclenche tout seul et enregistre, je dirais avec la précision d'un microscope. L'image et le son organiques. Je ne peux plus dissocier. J'ai des oreilles dans les yeux et des yeux dans les oreilles. Le temps passe et nous caresse au passage comme il ne le fait pas souvent. Il pense à nous caresser avant qu'on ne le fasse, avant même qu'on y songe précisément. On tête encore le dernier café qu'on n'ose pas finir parce qu'on ne sait pas dans quelle forme on va se retrouver ensemble. Together. Il faut encore penser à l'addition. Le lit est tellement loin qu'on ne sait pas si on va pouvoir y arriver. Il y a tant d'autres couches à traverser. Maintenant, il n'y a plus un bruit dans le restaurant, même s'il est rempli à ras-bord comme d'habitude. Le magnétophone ne capte plus les bruits du restaurant. Il va chercher tous les silences, même si les mots continuent de se débattre encore trop nombreux. La seule chose qu'on ne puisse pas faire, c'est d'arrêter le temps. Et on y arrive presque, malgré tout. Mais comme il est difficile d'arriver jusqu'à un lit, il faut faire tant d'efforts surhumains pour payer, s'habiller quand c'est l'hiver, sortir, prendre un taxi ou marcher, monter des escaliers interminables après avoir déverrouillé une porte avec une clé longtemps perdue au fond d'un sac qui ne se rappelle jamais son sésame tout de suite et qu'il faut toujours aider. Que c'est difficile à ouvrir une porte. Que le lit est loin. Si loin qu'on a déjà presque changé de sujet et qu'on a oublié de continuer de fondre. On a commencé à se reconstituer. On oublie. Il faudrait pouvoir s'étendre dans le restaurant, se rapprocher jusqu'à ce que la table n'existe plus et se prendre sur place, en toute intimité, en toute chaleur. Mais il y a la taxe à rajouter à l'addition, le pourboire à calculer, les retardataires, comme nous, pour des raisons diverses, et le garçon qui veut finir son quart. Il est excédé. Je suis excitée. Toi aussi. Il ne le voit pas. Personne ne nous voit. J'ai entendu tes jambes s'écarter sous la table et j'ai senti ton sexe venir jusqu'à moi. Il venait aussi de tes yeux et de ta bouche à ma rencontre. Et j'étais là. Absolument. Personne n'a rien vu. Ils n'ont pas vu l'eau me venir à la bouche quand tu t'étirais, quand tu t'allongeais vers moi. Ils n'ont rien vu du tout. Ils ne m'ont pas vu te recevoir au complet et manquer de souffle. Ma cigarette fumait quand même au bout de ma main. Je souriais. Ils n'ont rien vu d'autre que la fumée de ma cigarette qui s'alanguissait entre nous. Je suis entrée dans ton sourire et même dans ton rire. Je suis revenue. Je suis venue. Je suis entrée partout. Tranquillement. Viens, on va se faciliter la vie. L'histoire ne le dira pas. Le coton de ma blouse ne peut plus rien cacher, mes seins pointent jusqu'à ta bouche. Tu vois leur durcissement, tu le vois et tu le veux. J'entends dans ta voix un manque, une ellipse dans le souffle qui ne se rend plus par le canal habituel. Ta bouche est déjà occupée. Je parle avec ta salive. Ton souffle est en moi et m'alimente. Je te prête ma peau. Viens, on va se faciliter la vie. Je te redonne ton souffle pour que tu puisses retrouver notre calme, parvenir jusqu'à ce calme. N'explose pas. Je veux que tu saches que je comprends les volcans qui dorment. N'explose pas. Je comprends la douleur des volcans. Le cœur nous manque. On ne dit pas n'importe quoi, mais on le sort comme ça vient. Nos langues se parlent entre elles. Nous comprenons tout. Nous sommes en eau, nous sommes en âge. En âge. Nous ne savons plus écrire et nous n'avons jamais fait l'amour avant. Analphabète. Tu frissonnes. Tu passes ta main dans mes cheveux. Viens. On va se faciliter la vie. J'ai besoin de traverser ton corps pour venir jusqu'à moi. Nous prenons l'eau, ça coule de toutes parts. Tous tes orifices ont leur liquide. Chacun d'eux m'étanche et chacun d'eux me reçoit. Et parce que chacun des miens te reçoit aussi, on se revoit demain.
C'était tellement palpable, là, tu le sentais tellement le plaisir là, de nous voir ensemble, là, ce que ça réveillait chez elle, ce que ça suscitait chez elle. Tu sentais que, tu sais, que... C'est comme si elle atteignait son but à chaque instant, qu'il y avait deux personnes qui se rencontraient, puis trois, puis quatre, puis cinq, puis six, puis que son truc se prenait fort. Tu sais, c'était comme à chaque stade
du château de cartes était là, puis tu sais, genre, tu es excitée à regarder ça, là, se construire, puis genre, oh, tu sais, il y avait ce truc-là, tu... Puis c'était tellement communicatif, là, c'était comme t'avais trop envie, là, d'être dans son truc, dans son trip, puis d'embarquer à 100 000 à l'heure, puis... Posais pas de questions, vas-y, fais de moi ce que tu voudras. Puis, tu sais, c'était comme, on avait juste envie de se donner tout entière, là. Tu sais, je t'ai fait confiance, les yeux fermés, vas-y, tu sais. Moi, tu sais, je pense qu'on l'aurait tout suivi au bout du monde, là, Hélène, là. Sans aucun doute. C'est clair. Tu te sentais soutenue, tu te sentais protégée, tu te sentais élevée. Je sais pas, elle avait une manière de... Juste par sa présence, de te... Tu te sentais comme... parfaite à ses yeux. Tu sais, il y avait comme pas de... C'était comme si... Ouais, tout le monde était parfait, puis tout était comme c'était supposé d'être.
Qui es-tu? Qui es-tu? Tu souris comme tu respires. Je vois la nuit se fendre et sortir de ses flancs des copeaux de diamants que personne ne ramasse sous prétexte que ce n'est que de la pluie. Qui es-tu? Tu souris comme tu respires. Je vois l'asphalte se fendre et sortir de ses flancs des lagunes où personne ne navigue sous prétexte que ce ne sont que des flaques d'eau. Qui es-tu? Tu souris comme tu respires. Je vois la mer se fendre et sortir de ses flancs des parfums inédits que personne ne sent, sous prétexte qu'ils sentent trop le sel et pas assez la rose, trop les algues et pas du tout l'œillet. Qui es-tu? Tu souris comme tu respires. Je vois l'horizon se fendre et sortir de ses flancs des nuées d'âmes blanches et noires que personne ne voit, sous prétexte qu'elles n'existent pas. Qui es-tu? Tu souris comme tu respires. Je vois la terre se fendre et sortir de ses flancs des buées de chaleur lourdes qui flottent depuis le fond des abîmes que je frôle avec toi et que personne ne voit sous prétexte que le soleil tape trop dur. D'où viens-tu? Tu souris comme tu respires. Je sens mon corps se fendre et sortir de ses flancs la lave de ses volcans. Vous venez d'entendre un morceau de « La douleur des volcans » de Hélène Pedneau, ainsi que des éléments d'entretien avec Paul Pelletier et Doriane Fabré. Redécouvrir Hélène Pedneau, une série de balados proposés par Marion Cousineau. Lecture, entretien et montage sonore, Marion Cousineau. Thème musical, Jean-François Groux